Hello, bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Humbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline.
Alors déjà, je voudrais te remercier d'avoir accepté de faire cette toute première interview dans mon podcast.
Bah avec grand plaisir. Je suis hyper honorée que tu m'aies invitée pour inaugurer ces interviews.
Bah écoute, moi aussi je suis super contente que t'aies accepté. Et je vais juste commencer par te présenter de mon point de vue et puis ensuite je te demanderai de te présenter. Pourquoi je t'ai choisie pour cette première interview? Bah parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mélanie et moi, on se connaît depuis quelques mois, je pense depuis un peu plus de 6 mois. On est ce qu'on appelle partenaire de responsabilité. C'est-à-dire que tous les lundis matins, on se retrouve, on discute de nos objectifs, de notre entreprise, et on se fixe des objectifs pour la semaine, et on s'aide à tenir ces objectifs et à rester dans le bon état d'esprit pour avancer sereinement, mais sûrement. Donc là, on est lundi matin, on vient de faire notre petit rendez-vous, et puis on continue avec l'interview. Du coup, Mélanie, je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Je peux faire ça. je suis freelance en community building, c'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent créer une communauté privée pour leur projet. Par communauté privée, j'entends vraiment un groupe, un cercle fermé, donc... On pense souvent au groupe Facebook, mais il y a aussi plein d'autres plateformes comme Discord, Slack, Circle, ce genre de choses pour créer des communautés. Et je fais ça depuis environ 2 ans, parce qu'avant, j'ai eu à peu près 1 milliard de projets différents. j'ai surtout bossé dans la communication et la rédaction web. J'ai eu aussi des projets autour de l'écologie. Enfin bref, j'ai fait plein d'expérimentations différentes avant de trouver vraiment ce pourquoi j'ai été faite. Donc, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir exercer ce métier qui n'est pas très connu, mais qui est très, très chouette parce que ça touche à l'humain et aux relations. Donc, c'est vraiment dans l'idée de chouchouter les personnes avec qui on travaille.
Ouais, alors du coup, je rajoute que on parlera de ton parcours un tout petit peu plus tard dans l'interview. Donc, si vous êtes intéressé par le parcours de Mélanie, restez en ligne. Et je voudrais aussi rajouter que en fait, on s'est rencontrés justement dans la communauté GNG I Don't Think, puisque Mélanie et moi-même, on a suivi quelques formations de Julia et Julie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mélanie travaille aussi avec Julia et Julie pour construire la communauté, le Discord. On s'est rencontrés dans ce contexte-là.
Si je peux rajouter aussi, parce qu'en fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on me demande des présentations, on parle du boulot. Mais il n'y a pas que ça, en vrai. Enfin, j'essaye de prendre l'habitude de parler d'autres choses aussi qui me caractérisent que le boulot. Si je devais me présenter un peu plus, sans faire 3 tonnes, mais sur le côté perso, il faut savoir que je suis une grande fan de jeux vidéo, d'animés, de mangas. Et qu'en ce moment, je suis redevenue vraiment une ado de 15 ans à fond dans ces trucs-là. Et en fait, je dis ça parce que je trouve que c'est hyper important aussi de trouver un équilibre entre le pro, le perso. Et comme je te disais, on se présente souvent via le prisme de notre activité, même s'il y a d'autres choses qui nous définissent. Donc voilà, je pose ça là, comme ça pour plus tard aussi. ça expliquera certains choix.
Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas un hasard si on a bien accroché, parce que moi aussi, je suis à fond dans tout ce qui est jeux vidéo, culture geek. Donc, c'est vrai qu'on en parle, régulièrement.
c'est vrai.
Et tu as tout à fait raison sur le fait que quand on demande aux gens de se présenter, généralement, ils vont parler de leur boulot en premier, mais qu'en fait, on est quand même bien plus que notre boulot, et heureusement, puisque c'est aussi tout ce qu'on a à côté qui nous nourrit, au final, dans notre boulot. Donc, merci d'avoir précisé ça. Et du coup, ça nous fait une super transition avec la question numéro 2, qui est le petit jeu du portrait chinois. Donc, j'ai fait parvenir à Mélanie toute une liste d'items qu'elle pouvait choisir pour faire son portrait chinois. Donc, je lui ai demandé d'en choisir 5. Donc, elle va nous dire... Bah, alors, du coup, je ne sais même pas quels items elle a choisi. Donc, Mélanie, dis-nous.
C'est la surprise.
Dis-nous.
Justement, tu parlais de transition parfaite. Et ben, c'est très bien parce que le premier item que j'ai choisi, c'est un jeu vidéo. Du coup, si j'étais un jeu vidéo, je serais Tomb Raider. Parce que, alors c'est très nostalgique. En fait, quand j'étais petite, on avait une PS1 à la maison. Et en fait, j'ai vu mes parents, mes frères et sœurs qui étaient du coup un peu plus âgés, et aussi leurs amis en fait jouaient à ce jeu pendant que moi je les regardais ou alors que je cherchais les solutions pour eux sur l'ordi. Et en fait moi-même j'y ai un petit peu joué, mais j'ai plus été spectatrice de d'autres, enfin voilà, d'autres personnes qui y jouaient. Et en fait ça me rappelle vraiment quand j'étais petite et ce côté où on était tous en train de chercher les solutions aux énigmes. Moi je sais que quand j'y jouais, j'adorais faire les petits parcours dans son manoir où il fallait sauter de plateforme en plateforme. Et pour moi, c'est vraiment un jeu qui me rappelle mon enfance et qui, ayant grandi, en fait, je dis souvent que j'ai grandi avec une manette dans les mains. Et pour moi, c'est hyper emblématique, ce jeu de l'époque PlayStation 1. Et voilà pourquoi je l'ai choisi.
C'est vrai que moi, je n'ai jamais vraiment joué à Tomb Raider. Pour... Parce que tu le sais, je ne peux pas jouer à des jeux dans lesquels il y a des combattants réels, donc Tomb Raider, c'est compliqué. Mais je me souviens que, pareil, je l'avais sur PS1 et que je m'amusais justement dans le manoir à parcourir un petit peu le manoir, à essayer d'aller dans les pièces secrètes. Je me rappelle aussi du... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas le valet de l'héroïne, mais
oui,
tu sais,
le majordome.
Le majordome, exactement. Je me rappelle qu'on pouvait le coincer dans une pièce.
Dans la chambre froide, ouais. Je pense que qui n'a pas joué à Tomb Raider sans enfermer une petite... Je ne sais plus comment il s'appelait, Alfred ou quelque chose comme ça.
Je ne sais pas.
Le majordome, en tout cas.
Alfred, c'est Batman. Alors, je ne sais pas s'il s'appelle Alfred aussi sur Tomb Raider, mais... Lara Croft, voilà.
C'est le nom par défaut qu'on donne à Majordome.
Alors, pardon à tous les Alfred du monde.
C'est sans arrière-pensée.
Ok, d'accord. Donc, du coup, un jeu vidéo Tomb Raider, côté nostalgie. Très cool. Je te laisse continuer avec le prochain item de ton portrait chinois.
Le deuxième item que j'ai choisi, c'est si j'étais un livre, je serais un recueil d'essais qui s'appelle « It's not okay to feel blue and other lies », qui est en fait dans lequel on trouve des interviews de célébrités, mais pas que, il y a aussi quelques personnages moins publics qui racontent des moments difficiles de leur vie ou des moments où finalement leur santé mentale a été un peu mise à mal et ils ont eu des soucis pour s'en remettre. Et ça peut paraître très déprimant, dit comme ça. Mais en fait, ce livre est vraiment, je pense, d'utilité publique. Malheureusement, je ne crois pas qu'il ait encore été traduit en français. Mais tout simplement, déjà, parce qu'il parle de santé mentale, qui est un sujet très tabou et dont on parle très peu, mais qui m'importe beaucoup, parce que c'est souvent quelque chose qu'on relègue au second plan. Et en fait, le fait d'avoir... ce bouquin qui est quand même assez épais, qui recense finalement des tranches de vie qui ne sont pas toujours faciles, ça permet aussi de se rendre compte que même si on n'en parle pas beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui vivent plein de choses différentes qui ne sont pas toujours faciles à gérer et que bien évidemment, généralement, il y a quand même un point positif à la fin où les personnes racontent... qu'est-ce qu'elles ont mis en place ou comment elles ont réussi à s'en sortir. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas juste déprimant. Mais c'est surtout un livre qui permet de mettre en avant ce sujet et de dire c'est OK en fait. On n'a pas besoin de se cacher quand ça ne va pas. Et plein de personnes, même les personnes les plus célèbres, on n'imaginerait pas qu'elles ont tout ce qu'elles veulent sur le papier. Mais ça n'empêche qu'elles vivent aussi des choses pas faciles. Et j'ai trouvé ça très cool de pouvoir mettre en lumière cette question de la santé mentale et de comment en prendre soin.
Ouais, effectivement. Super intéressant. Du coup, c'est un livre, un recueil d'interviews ou alors c'est des personnes qui prennent la plume et qui écrivent leur propre expérience?
Oui, je dis interview, mais en fait, ce n'était pas du tout ça le bon terme. Enfin, c'était plus, comme je disais au début, un recueil d'essais.
Ah, d'accord.
Parce que c'est vraiment, oui, chaque personne a été invitée à décrire une situation dans leur vie qui a été difficile et comment elles ont pu passer outre. Donc, chaque personne vraiment... Après, j'imagine qu'il y a eu relecture. Enfin, les textes ont été retravaillés, mais ouais, c'est chaque personne qui a écrit sa propre expérience.
Ok, ouais. Bah, écoute, ça a l'air super intéressant. Du coup, je mettrai peut-être les références du livre dans la description du podcast pour les personnes intéressées. Ouais. Parce que moi-même, du coup, ça m'intéresse, ça m'interpelle.
Ensuite, si j'étais un animal, je serais un panda roux. Je n'ai pas une explication de 3 heures là-dessus. C'est juste que je trouve cet animal vraiment trop mignon. Et en plus... Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais comme quoi les pandas roux, en fait, pour se défendre, ils se mettaient sur leurs deux pattes et ils se levaient avec les pattes en l'air, du coup, pour essayer de paraître plus grands qu'ils ne l'étaient et essayer de faire peur aux autres animaux. Donc, bon, à vérifier la véracité du truc, mais je trouvais ça trop mignon. Et je ne sais pas, j'aime trop cet animal. Donc, voilà.
Depuis longtemps, du coup, tu l'aimes ?
Bah, pas tant que ça. Enfin, pas tant que ça. Je pense que ça fait quelques années. Après, j'ai pas de souvenir précis de à partir de quel moment je me suis dit ouais, le panda roux, c'est vraiment trop cool. Mais ouais, ça fait quelques années. Je sais pas, je suis assez fascinée par cet animal. En plus, il y a un Disney Pixar qui était sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Alerte Rouge.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander.
Dans lequel il y a des pandas roux et trop chou aussi. Donc, après, je suis un peu mitigée sur le film, mais les pandas roux étaient mignons.
Ok, donc le côté mignon, fluffy et ce côté défense, se faire plus grand qu'on est pour se défendre.
Ouais, c'est ça.
Ok, super.
Est-ce qu'on peut en tirer une analyse psychologique, je ne sais pas, mais c'est intéressant comme concept.
On laissera les auditrices se faire leur propre interprétation. En plus,
exactement.
Vous ne voyez pas Mélanie, mais elle a actuellement un sweat orange, voilà, pour aller avec le panda roux.
C'est pour rester dans le thème, c'était tout prévu. Ensuite, si j'étais un des 5 sens, je serais la vue. Parce que je me considère comme quelqu'un de très visuel, dans le sens où j'arrive mieux à retenir les choses quand je peux les voir. Je te donne un exemple tout bête. Quand j'étais à l'école, quand j'étais étudiante, je faisais tout le temps des fiches de révision avec des couleurs partout. Parce que après, quand j'étais en contrôle, en examen, je revisualisais cette fiche. Et finalement, ces éléments de couleurs et la manière dont j'avais agencé les informations qui me permettait de m'en souvenir et de pouvoir le restituer, en fait. Et globalement, j'ai aussi toujours été très sensible à tout ce qui est art visuel, on va dire. Par exemple, je suis beaucoup d'illustrateurs et de dessinateurs et dessinatrices sur Instagram, parce que des fois, je trouve qu'une image, ça peut transmettre vraiment beaucoup d'émotions. Et sans avoir rien d'autre à côté, en fait, en termes de couleurs, de lumière, des expressions d'éventuels personnages qui sont dessinés. Et je ne sais pas, ouais, j'ai une sensibilité particulière, en tout cas, pour ce côté-là.
Ok. Ouais, c'est super intéressant. Moi, je me souviens que, pareil, quand j'apprenais mes cours, je devais les réécrire. Mais par contre, je n'avais pas cette notion de couleur différente. Moi, c'était vraiment l'action de réécrire mon cours qui me permettait de l'apprendre. Mais je trouve ça super intéressant d'avoir cette notion de bien tout mettre, enfin, avoir une espèce de vision un peu créative de ton cours. Et c'est comme ça que tu retiens ce que tu as écrit, en fait. Et enfin, en gros, tu as une espèce de... Est-ce qu'on peut extrapoler en disant que tu as une espèce de mémoire peut-être un peu photographique ou pas du tout?
Si, je pense un peu. Après, j'ai pas... Enfin, qu'est-ce que tu entends exactement par mémoire photographique?
Alors, normalement, la mémoire photographique, c'est... voilà, tu vois quelque chose et l'image s'imprime dans ton cerveau et tu peux te rappeler des détails de l'image que tu as vue. Mais là, du coup, à mon avis, c'est peut-être une variante où toi, tu retiens peut-être les différentes couleurs. Tu vois, si c'est organisé de manière colorée.
Ouais, en fait, quand je dis... je pense que mémoire photographique, c'est peut-être un peu trop précis dans le sens où, justement, je trouve pas forcément que si je vois une image, je vais me rappeler de chaque détail. J'ai plutôt une vision globale. Et en fait, c'est pour ça que moi, je mettais des codes couleurs sur mes fiches. Parce qu'en fait, je sais pas, par exemple, les grands titres, c'était en rose. Les sous-titres, c'était en vert. Et en fait, limite, en fermant les yeux, je peux avoir cette espèce d'organigramme global où je me dis, ah oui, ça, cette info, je vais pouvoir aller la chercher dans le sous-titre A de la partie 1. Mais parce que, en fait, j'ai une espèce de prise de recul où je vois la globalité du truc et je me dis, ah oui, c'était construit de telle manière, donc je sais que ça, c'est ça. Mais après, sur le côté mémoire photographique, je ne suis pas trop sûre parce que... Justement, j'ai pas ce côté très détaillé. C'est vraiment plus une vision d'ensemble.
Ok. Ouais, donc de ce que tu me dis, ce que j'analyse, c'est qu'on est plutôt sur un côté structuration, en fait. Je pense que je fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire que tu as une espèce de grand ensemble. Tant que c'est pas structuré, c'est pas très clair, mais une fois que tu as bien tout structuré à l'intérieur, c'est très clair pour toi et c'est beaucoup plus facile à retenir, quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Ok, très intéressant.
Du coup, je vais clore ce portrait chinois à nouveau par un côté nostalgie, puisque si j'étais une chanson, je serais une nuit de folie de début de soirée. C'est une chanson, alors, je ne sais même pas si c'est années 70, années 80, mais bon, chanson année disco, on va dire. Et en fait, je l'ai choisi parce que, encore une fois, quand j'étais petite, chez mes parents, en fait, on avait installé une petite boule à facettes et on faisait des booms à la maison, mais juste entre nous, en fait. Et c'était la chanson que je voulais tout le temps écouter. Et aujourd'hui encore, quand je fais des soirées, si elle passe pas, je vais aller la réclamer à mes amis ou à ma famille parce que... Je sais pas pourquoi, vraiment j'adore cette chanson, elle est hyper entraînante, elle est hyper rigolote et enfin voilà, c'est vraiment quand je l'entends, ça me ramène directement à quand j'étais enfant et qu'on faisait des booms à la maison avec notre petite boule à facettes, nos platines parce qu'en fait mon beau-père était DJ quand il était plus jeune et du coup enfin voilà, il nous faisait le DJ à la maison et c'était vraiment incroyable.
Ah ouais, ceci
Donc
explique
cette
cela,
chanson c'est...
Je trouve ça génial,
Ouais.
le concept de boule à facettes, déjà.
Oui, mais c'était vraiment incroyable. On avait ça dans notre salon. Enfin, voilà, on la mettait. En plus, elle tournait et tout. C'était pas juste pour la déco. Donc, on éteignait les lumières. On mettait la lumière là sur la boule à facettes. On poussait les canapés. Mon beau-père, il branchait les platines. Il sortait ses vinyles. Et puis, c'était parti. Et vraiment, c'est des trop bons souvenirs. Donc, voilà, c'est ma chanson de choix.
Génial. Je crois que ouais. Je pense qu'on a tous besoin d'une boule à facettes chez soi et d'une platine, en fait.
Mais oui, c'est tellement génial. Franchement, le jour où j'aurai un appart ou une maison où je pourrais faire accrocher des trucs au mur comme ça, directement, je ferai ça.
Ah, c'est clair. C'est clair. Ok, bon bah du coup, merci Mélanie pour ce petit portrait chinois. J'aime beaucoup cet exercice, je trouve que ça révèle beaucoup sur les personnes. Et bah du coup, on va continuer. En intro, je vous disais qu'on en saurait un petit peu plus sur le parcours de Mélanie. Bah voilà, le moment est venu. Donc, Mélanie, est-ce que tu peux nous parler du parcours qui t'a mené à faire du community building?
Je peux essayer. Non, parce que je dis ça parce que c'est assez. Enfin, je dirais pas décousu, mais il s'est passé plein de choses. Donc, je vais essayer d'être quand même assez concise. À la base, je voulais être traductrice littéraire. Du coup, j'ai tout fait depuis la cinquième pour aller vers cette voie. Donc, j'ai fait un bac L, j'ai fait une licence d'anglais et normalement, je voulais faire un master en traduction. En fait, c'est en arrivant à la fac que je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire ça. Je m'étais un peu mis des œillères pendant toutes ces années parce que c'était rassurant en fait de savoir ce que je voulais faire alors qu'il y avait plein de gens autour de moi qui savaient pas. Et comme on le sait tous, à l'école, on nous met beaucoup la pression pour choisir notre orientation. Et moi, je voulais éviter cette pression-là. Donc voilà, je traçais ma route. Toujours est-il qu'en arrivant à la fac, j'ai décidé donc de ne pas faire ça et j'ai quand même fini ma licence d'anglais. Sauf qu'après, j'avais envie d'entreprendre et donc je me suis lancée dans un service civique, dans une association qui s'appelle Unicité et qui permet en fait de choisir son propre projet d'intérêt général à réaliser de A à Z. À l'inverse des missions de service civique où généralement c'est tu travailles dans une association et on t'assigne des missions spécifiques. C'est pas toi qui crée ton propre projet. Donc j'ai fait ça pendant un an. Donc là, c'est pour resituer un peu, c'était entre 2017 et 2018. Et pendant service civique, j'ai monté un projet autour de l'écologie où je faisais des ateliers sur le zéro déchet pour les particuliers. En fait, j'avais choisi cette thématique parce que pendant mes années d'études, donc mes 3 ans de fac, je m'étais vachement sensibilisée au sujet. Ayant eu mon premier appartement, j'ai commencé en fait à m'intéresser à ma consommation et comment je pouvais faire pour l'améliorer et surtout réduire mes déchets. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi cette thématique parce que, disons que moi, généralement, quand je me passionne pour un sujet, je veux vraiment faire une fixette dessus et creuser le plus possible pour comprendre les tenants et les aboutissants, pour vraiment essayer d'avoir une compréhension globale. Et j'ai tendance, voilà, à vraiment y aller à fond. Donc là, c'était la période vraiment écologie zéro déchet. Ensuite, après ce service civique, j'ai voulu continuer dans cette voie, enfin dans ces projets sur l'écologie et je suis retournée à la fac, mais cette fois-ci pour un diplôme étudiant-entrepreneur. Et en fait, je voulais tout simplement transposer le projet que j'avais commencé en service civique, mais pour les entreprises, donc faire des ateliers de sensibilisation au zéro déchet, mais dans les entreprises. Donc j'ai commencé un petit peu à faire ça entre 2018 et 2019. Et j'avais vraiment, enfin, j'étais partie sur des grandes ambitions avec ce projet en me disant je vais faire des ateliers réguliers, vraiment transformer la manière dont les personnes consomment dans les entreprises. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des ateliers tests dans des espaces de coworking et quelques entreprises et c'était très chouette. Mais en parallèle, j'avais besoin aussi de travailler, enfin d'avoir vraiment un revenu régulier. Et c'est à peu près la période où j'ai commencé à faire de la rédaction web et de la communication. Parce que finalement, ça rentrait dans mes compétences et j'avais pu en faire aussi un petit peu pour des engagements associatifs. Donc voilà, je me suis lancée en freelance. Donc mon entreprise, en fait, je l'ai ouverte en 2018, juillet 2018. Pendant que j'étais toujours avec ce projet sur l'écologie. Maintenant, je fais un petit peu un bond dans le temps pour nous amener directement à 2020, où je suis partie en Erasmus pour les entrepreneurs, dans le but de développer ce projet sur l'écologie en entreprise. Et sauf que c'était la période du Covid. Et j'étais partie aux Pays-Bas travailler avec un autre entrepreneur qui avait un tout autre projet. En fait, l'objectif, c'était un peu donnant-donnant. Moi, j'aidais cet entrepreneur et lui m'aidait à développer mon projet. Et puis, bah, voilà, confinement oblige, ça a été hyper compliqué. Et je me suis retrouvée confinée sur place pendant 2 mois avant de pouvoir rentrer en France. Et puis, au final, l'Erasmus s'est arrêté. J'ai pas pu aller au bout de mon contrat pour diverses raisons. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais là, j'essaye de mener 2 projets de front parce que j'avais toujours ma micro-entreprise avec ses missions de rédaction et de com, et aussi mon projet sur l'écologie où j'avais vraiment vocation à rassembler les gens autour de sujets qu'on trouvait un peu barbants et dont on avait marre en fait de recevoir des injonctions toujours sur il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc, voilà, je me suis retrouvée en pleine réflexion. Il y a eu pas mal de changements aussi dans ma vie perso qui ont fait que ça, tout a été chamboulé en même temps, en fait, finalement, ma vie pro, ma vie perso. Et là, je me suis dit, mais en rétrospective, tout ce qui a toujours été le fil rouge de n'importe quel projet, n'importe quel engagement associatif que j'avais eu sur les 3-4 dernières années, c'était la notion de rassembler les gens. Donc, quand je faisais des ateliers pour les particuliers, c'était rassembler des particuliers. On faisait des sessions, en fait, de partage et d'échange où chacun donnait ses bonnes pratiques, répondait aux questions des autres, s'enrichissait des expériences aussi des uns. Et en fait, c'était pareil sur le projet pour les entreprises. Et c'était vraiment cette notion fil rouge de rassembler et de créer du lien entre les gens et de leur permettre d'apprendre les uns des autres. Et en fait, ça a un peu été le moment de révélation, tu sais, où tu te dis « Ah, mais ça y est, j'ai trouvé le truc qui me fait vraiment vibrer. » Et c'est pour ça qu'en 2020, j'ai pris la décision de d'arrêter le projet sur l'écologie parce que je voyais déjà que ça ramait un petit peu. D'arrêter aussi, bon, idéalement, mes missions de communication et de rédaction web et de me concentrer uniquement sur la gestion, la création et la gestion de communautés privées. Et ça a vraiment été une période de transition et aujourd'hui, je suis quasi exclusivement sur des missions autour de la création et gestion de communautés. Voilà.
Ok, ouais, non, c'est super intéressant de voir le cheminement. Et je rajouterais que l'année dernière, tu as lancé la bêta d'une formation sur le community building et que là, tu es sur le point de lancer une formation community building, mais via Discord.
Exactement.
Alors déjà, Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer pour les auditrices qui ne le savent pas ce qu'est Discord ?
Discord, c'est un mix entre un forum et une messagerie instantanée. En fait, c'est une plateforme qui permet de créer des serveurs, donc des communautés finalement. Et c'est organisé de manière à ce qu'il y ait différents salons dans lesquels on peut discuter de plein de sujets. On a des salons écrits et des salons vocaux. Et en termes vraiment de fonctionnement, je dis messagerie instantanée parce que c'est vraiment... on s'envoie des messages de manière instantanée dans ces salons. Et le côté forum, parce que en fait, la structure ressemble beaucoup, je trouve, à un forum dans le sens où les forums qu'on utilisait il y a quelques années, enfin qui existent toujours d'ailleurs, mais c'est un peu moins populaire, il y a le côté organisation en catégories, sous-catégories avec des forums à l'intérieur. Bah, Discord, c'est un peu pareil. Il y a des catégories, il y a des salons dedans, il y a des messages dans les salons. Et ça permet de structurer des communautés professionnelles, mais aussi des communautés entre amis pour jouer, discuter de plein de sujets différents. Donc, il y a plein d'utilisations possibles et c'est un outil qui est très polyvalent, qui avait une réputation très gaming parce que c'était beaucoup utilisé dans cet univers-là avant, mais qui cherche à s'ouvrir aux communautés au sens large pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde.
Ok, merci pour cette explication détaillée de l'outil. J'espère que ça va donner envie aux gens de s'y intéresser parce qu'effectivement, c'est un super outil communautaire. Et c'est vrai que... Moi, je fais partie de pas mal de serveurs Discord, donc que ce soit pour l'entrepreneuriat, pour le jeu vidéo, pour le jeu de rôle, même pour mes clients. On a mis en place des serveurs Discord pour discuter entre nous de sujets professionnels. C'est vrai que c'est très versatile en fait comme utilisation et c'est ultra pratique.
Du coup, cette formation Discord m'est venue parce que j'ai commencé à beaucoup utiliser cet outil. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a 2 ans de ça, je l'utilisais par défaut un peu parce qu'en fait, j'avais une entreprise avec laquelle je travaille qui était dessus, mais je n'étais pas spécialement fan en fait parce que je ne trouvais pas l'outil hyper intuitif. Pourtant, j'adore bidouiller, mais vraiment, ça ne me parlait pas plus que ça. Et après, je me suis mise à jouer davantage en ligne, donc forcément, c'est un outil qui est beaucoup utilisé aussi dans ce type de situation. Et bref. J'ai découvert en fait toutes les possibilités qu'il y avait avec Discord en termes de gestion de communauté, de gestion de rôle, enfin voilà, le côté très structurel aussi. Moi, comme on l'a vu tout à l'heure, j'aime bien le côté très, très organisation, structure, etc. dans tout ce que je fais. Et bah là, en fait, ça réunissait un peu ces critères-là. Donc, j'ai commencé à beaucoup plus l'utiliser et aussi à gérer une communauté sur Discord, qui est la communauté de Notion en français que j'ai co-créée il y a quelques années, bah, il y a 2 ans de ça. Et en fait, vraiment, je suis tombée amoureuse de l'outil après des débuts un petit peu réticents. Et j'ai rencontré pas mal de personnes qui voulaient créer des communautés sur Discord ou même qui voulaient comprendre le fonctionnement parce que ça n'en reste pas moins que l'outil n'est pas super intuitif quand tu ne le connais pas du tout et que tu n'es pas habitué de ces plateformes-là. Donc, j'avais vraiment envie de créer une formation qui reparte des bases, de comprendre l'interface, comprendre les différents blocs en fait, qui composent Discord et qui composent un serveur Discord et les différentes interactions que tu peux retrouver à l'intérieur pour que les personnes en fait, puissent vraiment, dans la formation, créer de A à Z leur propre serveur Discord. Et moi-même, en fait, j'ai pris un exemple fictif pour permettre d'accompagner les gens et d'avoir quelque chose de tangible à quoi se raccrocher en me disant « Ah oui, bon, moi, dans ma communauté, je pourrais utiliser Discord de telle et de telle manière pour que ça réponde à mes objectifs et à ma façon en fait, d'organiser ma communauté. » Donc, c'est un peu tout l'enjeu de cette formation et la raison pour laquelle j'ai eu envie de la créer.
Ok. Bah, du coup, je vous mets aussi, pareil, hein, les liens pour accéder à toutes les informations concernant la formation de Mélanie en description de ce podcast. On va passer à la question suivante, Mélanie. Pour ton organisation, donc là, on va parler outils, pratiques,
ah, yes.
Ressources. Pour ton organisation, qu'est-ce que tu utilises régulièrement ? Alors, quand je te demande qu'est-ce que tu utilises, je peux parler d'outils, mais ça peut être aussi des mantras, ça peut être des systèmes d'organisation. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui ?
Ouf ! Il y a plein de choses. J'essaye de me dire qu'est-ce qui serait le plus pertinent. Bah, si on fait juste un rapide tour des outils que j'utilise, comme beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses maintenant, j'utilise beaucoup Notion depuis quelques années. Rien de bien original là-dedans. Mais j'ai quand même conservé une partie papier parce que je ne me balade jamais sans mon carnet et sans mon agenda papier parce que je n'arrive pas à tout faire sur Notion, et notamment la gestion des tâches, ça ne me parle pas. Donc là, c'est le premier message aussi que j'ai envie de faire passer, c'est que malgré le fait qu'on parle souvent d'outils en ligne et du fait qu'il faille au maximum numériser son organisation et utiliser les outils à leur plein potentiel, moi, je dis qu'il faut faire selon la manière dont on fonctionne et selon ce qui nous correspond le mieux. J'ai essayé de tout faire sur Notion, ça ne me parlait pas. Du coup, je suis repartie à mon mix Notion-papier et ça me va très bien comme ça. Donc, en termes d'outils d'organisation, c'est vraiment avec ces 2-3 outils que je fonctionne tout le temps et je n'ai pas forcément besoin de plus. Ça me permet d'organiser toutes mes ressources et puis de suivre mes tâches sur mon petit agenda avec ma to-do list et je coche quand c'est fini et point. En termes de principes d'organisation que j'utilise pas mal au quotidien, c'est en fait de me faire des to-do list à la semaine. Je sais qu'avant, je faisais beaucoup de to-do list à la journée. Donc, avoir une liste de choses à faire qui devait être terminée à la fin de ma journée. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à les terminer et à vraiment pouvoir respecter mes propres engagements là-dessus. Parce que tout simplement, je me mettais trop de choses dans une seule journée. Et ça faisait que sur le papier, en fait, à la fin de la semaine, j'avais beaucoup moins de choses parce que je mettais tout vraiment en début de semaine. J'étais hyper optimiste sur ma capacité en fait, à abattre autant de travail et ça ne marchait pas. Donc, un jour, j'ai décidé que j'allais changer un peu de méthode et maintenant, je fais plutôt des to-do list à la semaine par projet. Donc, je sais dans une semaine ce que j'ai à faire au global sur mon propre business, mais aussi sur mes missions clients. Et en fait, après, je me mets des blocs de temps sur Google Agenda. Idéalement, en fait, c'est... Par exemple, je vais me dire, cette matinée-là, je vais plutôt la consacrer sur tel projet et cet après-midi sur tel projet. Mais après, je me laisse la liberté, en fait, de bouger les blocs. Je sais, en fait, quelles sont les choses qui sont prioritaires. Si j'ai besoin de m'en souvenir, je me mets une petite étoile à côté de ma to-do list pour me dire ça, il faut que je commence par ça cette semaine ou il faut que je commence par ça aujourd'hui. Mais globalement, en fait, ça me permet d'être beaucoup plus efficace parce que je me laisse la liberté, en fait, de bouger les blocs si finalement je n'ai pas envie de bosser sur un projet en particulier. Et surtout, je me rends compte que depuis que je fais ça, bah, ma to-do list, à la fin de la semaine, j'arrive à la terminer avec une marge d'erreur parfois de 1 ou 2 items. Mais c'est beaucoup plus efficace que quand je me mettais la pression, que je ne finissais pas et que du coup, ça enclenche un cercle vicieux où après, je me dis « Ah, mais j'y arrive pas. » Donc, le lendemain matin, je procrastine et puis bah, forcément, je prends encore plus de retard. Et ça me mettait dans des situations où je m'imposais du stress à moi-même ou je travaillais après le week-end alors qu'en fait, tout était gérable dans la semaine. Donc, ça, c'est vraiment le truc qui fonctionne trop, trop bien chez moi et que je me suis autorisée à faire parce qu'en fait, au début, je suivais beaucoup les systèmes d'organisation de tout le monde que je voyais sur Instagram, sur n'importe quel réseau, et j'essayais de copier des systèmes, mais qui ne marchaient pas avec moi. Et maintenant, j'essaye de beaucoup plus m'écouter. Donc voilà, ouais, ce système de tout doux à la semaine et bloc de temps sur l'agenda, c'est... Ben, je ne dirais pas que c'est le système parfait, parce que peut-être que ça ne convient pas enfin, voilà, aux auditrices qui nous écoutent, mais en tout cas, moi, c'est le système qui fonctionne pour moi.
Ouais, j'avoue que moi, c'est pareil, ça fonctionne assez bien pour moi. Et comme tu dis, ça permet d'avoir une certaine souplesse dans ton agenda. C'est-à-dire qu'il y a, si un jour, tu te rends compte que tu n'as pas l'énergie ou que tu n'as vraiment pas envie, enfin ou tu sens que ça ne va pas le faire de travailler sur un dossier, bah, ça te permet de switcher un peu tes blocs de temps pour te consacrer à la tâche la plus optimum au moment T, quoi. Au moment M, plutôt.
Oui, c'est exactement ça. Et puis, forcément, au début, ça peut être dur d'estimer le temps que tu vas prendre sur tel et tel projet, ou ça ouais. peut être difficile de finalement te faire confiance en te disant bah, j'ai une to-do list à la semaine, mais du coup, je ne m'impose pas vraiment de tâches sur une journée. Après, encore une fois, je parle de ça de manière générale quand tu n'as pas d'urgence ou de priorité. Vraiment particulière, mais ça prend du temps, voilà, d'accepter finalement, de se faire confiance aussi, de se dire bah si ça fonctionne, mais c'est vraiment, pour moi ça a été très salvateur et ça m'aide à beaucoup moins procrastiner qu'avant.
Ouais, parce que ce que tu disais donc, c'est qu'avant t'essayais d'appliquer bah, des méthodes que tu trouvais certainement chez d'autres entrepreneurs sur Insta, sur d'autres sites web ou enfin, bref, ailleurs. Et que bah, ça ne fonctionnait pas forcément sur toi. Et que depuis que tu t'écoutes, ça va mieux en termes de gestion du temps, d'énergie, de productivité.
C'est ça, et c'est toujours un travail en cours, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus. Et puis, comme je te parlais tout à l'heure de Notion, où au début, je voulais absolument tout faire dessus parce que bah, c'est un peu l'injonction qui prime sur les réseaux et sur Internet de manière générale. Des personnes qui utilisent Notion, elles utilisent Notion pour tout. Et il faudrait faire pareil parce que c'est vraiment le truc à faire. Mais je me suis rendu compte que moi, ça ne me correspondait pas. Et en fait, tu te libères d'un poids déjà quand tu essayes de moins te comparer à ce que font les autres et de plus recentrer l'énergie sur toi et de te dire « Mais peu importe que les autres bossent 12 heures par jour ou utilise exclusivement un outil ou utilise ce système d'organisation. Ce qui prime, c'est ce que moi, j'ai envie de faire et mon fonctionnement à moi. Et j'avais suivi un coaching un peu là-dessus, sur la gestion du temps, finalement. Mais ça allait bien au-delà de ça. C'est aussi la gestion des ressources parce que tu peux avoir 7 heures dans une journée, mais l'énergie pour bosser que 4. Mmh. Et c'est OK, en fait, tant que tu es autant efficace et... Mais c'est difficile, en fait, de sortir de ce schéma où, en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse, on veut vraiment s'affranchir de modèles préexistants, donc, bah, qu'on hérite du salariat majoritairement. Mais en même temps, on ne se laisse pas la liberté de fonctionner comme on veut parce qu'il y a d'autres injonctions qui prennent le pas sur d'autres fonctionnements. Quand tu as une entreprise, tu es censé faire X ou Y choses. Donc, c'est un peu difficile de s'en défaire, mais je pense que c'est important.
Ok, bah, du coup, en fait, ça va super bien. Ça répond un petit peu à la question suivante qui est en termes de mindset et d'état d'esprit. Qu'est-ce que tu utilises régulièrement justement pour garder la motivation et garder un état d'esprit positif? Donc, La première chose, ce serait d'essayer de ne pas se comparer aux autres et de s'écouter, j'imagine. Après, est-ce que
C'est
tu as
la première
d'autres...
chose.
Oui, pardon, excuse-moi.
Non, 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 je disais que oui, effectivement, c'est la première chose. Mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je me dis, il y a quelques années, j'entendais aussi des discours comme ça qui disaient de s'écouter, etc. Et c'est bien beau de les entendre, mais faut-il encore pouvoir les mettre en application? Après, d'autres choses qui me permettent de garder la motivation, c'est qu'après, j'ai fait beaucoup de travail sur moi aussi, d'un point de vue, je dirais, mental, enfin, et aussi santé mentale, tu vois, pour mieux me comprendre, pour mieux. Enfin, réussir à mieux identifier des schémas qui peuvent se répéter. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de cercle vicieux où tu réussis pas ta to-do, du coup, tu procrastines parce que tu as l'impression que de toute façon, tu vas pas y arriver, donc tu accumules encore plus de retard. Je dirais qu'en fait, enfin, là où je veux en venir avec tout ça, c'est que j'arrive à maintenant faire une rétrospective des situations qui me sont arrivées avant. Par exemple, si je commence à me sentir mal parce que j'ai l'impression de procrastiner ou parce que j'ai l'impression enfin, qu'il y a un truc qui ne va pas dans mon organisation et que j'avance pas ou qu'une tâche me fait peur parce qu'elle est trop imposante, en fait, j'arrive à prendre du recul maintenant. Et ça, ça m'aide vraiment au quotidien parce que c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire avant. Et le fait de pouvoir prendre du recul, ça m'aide à me dire, OK. À quel moment est-ce que j'ai déjà été dans cette situation à me sentir angoissée par un truc ou à me sentir désorganisée? Ok, enfin, telle période, je me suis sentie comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait pour en sortir? Donc, ce que je fais, ça peut être plein de trucs différents. Moi, je fonctionne beaucoup avec des cartes mentales. Donc, je prends mon carnet et en fait, je note. Par exemple, je fais un point d'étape sur mon projet, enfin, mes missions, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment et comment tout ça s'articule. Je parlais au début du podcast d'avoir ce côté très visuel. En fait, le fait d'écrire comme ça une carte mentale sur mon carnet, ça me permet directement d'avoir en visu tous les différents projets qui gravitent autour de mon business et comment j'articule tout ça. Enfin, je dis business, mais des fois aussi, je pose vraiment tout pro, perso, tout ce qui me vient en tête. Donc déjà, écrire, ça m'aide beaucoup. Et d'autres méthodes que j'utilise, par exemple, quand je ne me sens pas assez focalisée sur mes tâches, c'est de me lancer des timers tu sais, en mode de méthode Pomodoro en me disant là, 25 minutes, je fais le max que je peux. Il n'y a pas de réfléchir 3 heures à est-ce que je devrais mieux commencer par cette tâche ou est-ce que ça va être difficile. C'est non, je la prends, je commence, 25 minutes, je vais au max que je peux. Et après, je vois ce qu'il en ressort. Et généralement, bah, ça me lance dans la machine. Et voilà.
Non, mais c'est sûr. Ici, on adore les cartes mentales. Moi, c'est l'outil que j'utilise en plus de Notion. J'utilise aussi le papier. Mais c'est vrai que quand je dois structurer un espace Notion ou refaire une organisation, je passe toujours par la case carte mentale. Ça m'aide
Ouais.
beaucoup. La méthode Pomodoro, effectivement, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est une méthode. Que je ne conseille pas forcément d'utiliser tout le temps, mais c'est vrai que quand on a des soucis de motivation et qu'on procrastine, ça aide trop de se dire, bon, bah, allez, 25 minutes, je fais le max, et ça permet de relancer un peu la machine. C'est très, très chouette comme conseil. Et je voulais te poser une autre question, du coup, revenir un petit peu à ce côté, quand tu me disais que donc c'était important de ne pas se comparer aux autres et que c'était facile à dire, est-ce que toi, tu as mis en place des petits trucs pratiques bah, pour justement... Essayez de ne pas te comparer aux autres.
Ah, la question à 1 million. J'essaye, là aussi. Il y a plusieurs petites choses qui m'aident à moins me comparer. C'est que déjà, j'ai fait un tri sur les réseaux sociaux, tout bêtement. Parce qu'avant, je suivais beaucoup de comptes business au final. Et je respecte hein, ce qui est fait. Il y a des personnes vraiment incroyables sur Insta. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était plus anxiogène qu'autre chose parce qu'à force de voir des posts avec des mantras, avec des comment faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, etc. Quand toi, tu n'y es pas, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de travers? Enfin, voilà. Donc, déjà, c'est finalement de couper le truc à la source plutôt que d'essayer de mettre en place des méthodes pour pour juste soigner des symptômes superficiels. C'est vraiment essayer de partir de la base, donc tri sur les comptes que je suis, les newsletters que je lis. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est quand je sens que je suis dans ce type de spirale, j'en discute avec d'autres amies entrepreneuses notamment. Et j'écris, encore une fois, par exemple, la liste des choses que j'ai réussi à accomplir ces 2, 3, 4 dernières années. Si c'est plus à un niveau quotidien, j'ai l'impression qu'une personne, elle a réussi à abattre un travail monstrueux en une journée, bah, en fait, moi, je fais une liste des choses que j'ai faites dans la journée et je me rends compte qu'en fait, j'ai bien avancé aussi. Voilà, c'est plein de petites choses qui permettent finalement... Le maître mot là-dedans, c'est juste de conscientiser ce que toi, tu fais et ce que toi, tu as déjà accompli pour arrêter de te dire... finalement, cette personne, elle fait mieux que moi parce que c'est pas vrai généralement. Et je dirais une troisième chose aussi, c'est que souvent on se compare avec des personnes qui sont plus avancées et qui sont passées par les étapes par lesquelles on est en train de passer. Et du coup, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de te comparer à quelqu'un qui a son business depuis 10 ans quand toi tu l'as depuis 3-4 ans. Évidemment que tu ne pourras pas atteindre les mêmes objectifs qu'elle parce que cette personne, elle est passée par la phase par laquelle tu es en train de passer. Donc, j'essaie d'être un peu terre à terre aussi des fois et me dire non, mais c'est bon. Enfin, toi, tu avances, tu fais ton chemin. L'important, c'est que tu avances et que tu atteignes tes objectifs. Ce n'est pas que tu atteignes les mêmes objectifs que ta voisine. On s'en fiche. Elle n'a pas la même vie, elle n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais je prends de plus en plus cet automatisme.
Ouais, mais bon, après tu te dis voilà, plus facile à dire qu'à faire, mais là du coup tu proposes quand même des applications pratiques, tu vois, c'est-à-dire premièrement faire le tri déjà dans ce que tu vois tous les jours, parce que c'est vrai qu'on a une attention qui est limitée, donc pourquoi se faire du mal avec des choses qu'on trouve anxiogènes, tu vois. Déjà ça, c'est un très bon conseil, je trouve, faire le tri dans son Insta et dans ses newsletters. Et puis ensuite, comme tu dis, peut-être quand on se sent pas bien, qu'on se compare à d'autres, déjà, ouais, regarder où en est la personne, depuis combien de temps elle bosse sur son business, et déjà combien de personnes il y a derrière aussi, parce que des fois, la personne n'est pas toute seule, hein, on s'en rend pas compte, mais elle peut avoir beaucoup d'aide pour tout son boulot. Et comme tu dis, peut-être écrire, enfin, en tout cas, prendre conscience de ce que toi, t'as fait, faire des bilans réguliers pour te les réafficher, te dire, ah bah ouais, effectivement, j'ai déjà accompli pas mal de choses. Cool.
Ouais, et puis je voulais juste aussi rajouter une réflexion qui est assez récente, parce que là on parle beaucoup de comparaison, enfin on a parlé dans les systèmes d'organisation, dans le business, etc. Et en fait, c'est une réflexion qui m'est venue il y a quelques semaines suite à une séance de yoga où, sur la partie méditation à la fin, la prof nous a invités à nous décharger de toutes les injonctions, de toutes les contraintes qu'il y avait autour de nous, que ce soit pro, perso, et finalement de penser à qui on était sans toutes ces couches-là, sans la couche, Mélanie entrepreneuse, Mélanie fan de manga, etc. Et en fait, ça m'a beaucoup, déjà, ça m'a beaucoup touchée, je ne saurais pas trop expliquer, je pense, parce que pour moi, le regard des autres a toujours été un sujet assez délicat. Et en fait, après, j'y ai beaucoup réfléchi à cette phrase et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu la clé de tout, quoi, parce que c'est vraiment, encore une fois, se recentrer sur soi et se détacher de tout ce qu'il y a autour, parce que, in fine, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on veut pour nous-mêmes, et ça n'a strictement aucun intérêt de se faire souffrir, en fait, avec des injonctions extérieures, alors que... Bah, on a toute notre vie à construire soi-même et voilà, nos besoins, nos objectifs à atteindre. Et c'est un peu ouais, visualiser ça comme des couches qui nous empêchent de vraiment respirer, de vraiment être nous-mêmes et d'essayer de les enlever en fait pour se retrouver en quelque sorte. Voilà, c'est très philosophique, mais...
Non, mais c'est super important ce que tu dis. C'est la base, ce que nous, on veut vraiment. Du coup, je rajoute rien, je trouve que c'est parfait comme tu l'as dit.
Voilà, méditer là-dessus. Ouais.
Alors après, je voulais te poser la question, donc, pour te demander dans les moments où tu manques l'estime de toi, comment tu fais pour les passer le mieux possible. Mais je pense, enfin, peut-être que tu as des choses à rajouter, hein, mais je pense que du coup, tu as déjà pas mal répondu, notamment quand tu parles de faire des bilans pour voir, bah, pour voir tout ce que tu as déjà accompli et dont tu es fière. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Si j'ai une petite chose, c'est encore un truc récent, mais qui finalement a été un peu un moment de révélation, enfin dans mon introspection, c'est que je me suis dit aussi que souvent je fais plus confiance à la Mélanie du futur qu'à la Mélanie du présent, dans le sens où quand on parle d'organisation, tu vois, parfois je te parlais des to-do list où j'étais trop ambitieuse. Et finalement, qui finissait par baisser mon estime de moi parce que je me disais, bah non, je ne suis pas capable. En fait, je me suis rendu compte que c'était hyper injuste de faire ça. Enfin, tu vois, si j'imagine que je suis, entre guillemets, deux personnes différentes entre le présent et le futur, bah, en fait, souvent, je mets toute la responsabilité de devoir agir et de devoir faire les choses correctement à la moi du futur. Et genre, moi, je me décharge de cette responsabilité en le notant sur le papier, en faisant ma petite to-do, en faisant mon petit planning pour plus tard. Et en fait, je laisse toute la responsabilité à la moi du futur de devoir agir sur ces bonnes paroles, tu vois, et ces réflexions que je fais en amont. Et en fait, je me suis rendu compte que faire ça, évidemment que ça marche pas, et que c'est pour ça que je répète des schémas où je me fixe des objectifs. Mais là, enfin, je dis ça pour le pro, mais ça marche aussi pour le perso. Je sais pas, tu vas tenir une routine de sport ou ce genre de choses. Quand tu te dis le samedi, non, mais c'est bon, je reprendrai lundi. Mais en fait, pourquoi lundi et pourquoi pas aujourd'hui? Et c'est un peu prendre ses responsabilités aussi sur le moment présent pour anticiper justement des émotions négatives que tu vas faire ressentir à la toi du futur et que tu aurais pu éviter si tu avais été un peu plus bienveillante avec elle en fait. Et enfin ouais, je trouve que c'est hyper intéressant de réfléchir de cette manière-là aussi. Parce que ça peut expliquer beaucoup de choses sur le pourquoi est-ce qu'on va procrastiner au moment venu, le pourquoi on se fixe des objectifs trop ambitieux et qu'après bah, on s'auto-flagelle quand on ne les atteint pas. C'est juste parce que voilà, on a déchargé trop de responsabilités sur le futur et que c'est plus intéressant finalement de prendre ses responsabilités dans le présent. On tourne vraiment à l'introspection là.
Ah non, mais j'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Mais j'aime beaucoup cette image de moi du futur et ouais, comment tu te décharges sur ta moi du futur. Non, mais ouais, je trouve ça très sage comme manière d'aborder les choses. J'aime beaucoup.
Bah, j'espère que ça parlera à tes auditrices également.
Ouais. Au niveau de la motivation. Alors, j'imagine que comme tout le monde, tu es humaine et qu'il y a des moments où tu manques cruellement de motivation pour te mettre au boulot. Dans ce cas-là, comment fais-tu? En dehors de la méthode Pomodoro pour éviter de procrastiner, est-ce que tu as des petits trucs?
Quand j'arrive à ne pas culpabiliser, je m'autorise à faire des pauses ou à carrément me prendre une demi-journée off à faire autre chose. Ça, je vais être honnête, ça arrive rarement, surtout quand je ne l'ai pas anticipé. Mais sinon, ça va être de commencer par quelque chose qui me fait vraiment envie, parce que des fois, le manque de motivation va venir du fait que la première tâche que je m'étais un peu fixée de faire dans ma tête, finalement, elle ne me convient pas. Enfin, je me sens pas motivée à la faire. Et des fois, c'est ce que je parlais tout à l'heure, du fait d'intervertir des blocs de temps. Parfois, ça m'aide à retrouver la motivation parce que je me lance dans un truc qui est plus enthousiasmant, on va dire. Voilà, après, par rapport aux autres méthodes que j'ai citées, j'ai pas trop de trucs en plus, j'avoue.
Ok, non, mais ça peut regrouper effectivement la motivation, l'estime de soi. Enfin, il y a des outils qui peuvent être multidimensionnels, je crois.
Exactement. Des fois, ça peut être aussi de se créer des petites routines. Tu vois, je sais que par exemple, si je me lève le matin et que je ne suis pas très motivée, il y a une chose enfin, qui va me remettre un peu de baume au cœur, c'est une petite routine toute simple de prendre mon petit déjeuner devant des vlogs sur YouTube. Et des fois, s'il faut que je le fasse peut-être une demi-heure de plus pour me sentir vraiment d'attaque, bah, je m'autorise à le faire aussi, quoi. C'est trouver en fait ces petits moments aussi qui nous apportent de la joie et qui sont un peu en dehors du boulot et de pas toujours être dans cette mécanique de je suis pas motivée, il faut que je trouve un truc lié à l'organisation ou au boulot pour me remotiver. C'est aussi bah, ce qu'on parlait des pauses, tu vois, et des petites routines comme ça.
Donc du coup, toi-même, tu as des petites routines quotidiennes ou pas?
J'en ai certaines. Bah, celle de prendre mon petit-déj devant YouTube ou devant un stream sur Twitch, je le fais beaucoup.
Okay.
Après, je n'ai pas plus de routine que ça. Pareil, c'est un truc que j'ai beaucoup essayé de mettre en place et qui souvent ne m'a pas spécialement convenu parce que je me sens vite trop oppressée quand je dois faire tout le temps la même chose. Et j'essaie plus de m'écouter, en fait. Donc, je n'ai pas forcément de routine à partager. De miracle morning, de session de yoga le matin, je ne sais pas trop, c'est plus au fil de mes besoins et envies.
Ok. Non, mais je pose la question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, justement dans le milieu entrepreneurial, on voit beaucoup passer ces injonctions aux routines. Moi, je me suis rendu compte que j'aime bien avoir une petite routine matinale, mais qu'elle change régulièrement. Je fonctionne par cycle. Donc, il y a des cycles où je vais faire 15 minutes de yoga et puis voilà. Et puis, mon petit-déj, etc. Enfin, c'est vrai que l'invariant, c'est le petit-déjeuner, de toute façon. Mais voilà, il y a des moments où je n'ai pas du tout envie de faire de yoga ou de méditation et c'est cool. Et puis, je vais au contraire, je vais me prendre un petit thé matcha ou arroser mes plantes et puis regarder mes plantes 5 minutes. Enfin, ça dépend vraiment des envies. Donc, voilà, c'est pour ça que je pose la question de la routine. Mais donc, du coup, toi, tu n'es pas forcément routine à part le petit déj devant YouTube ou Twitch.
Oui, voilà, c'est quelque chose que... Après, est-ce qu'on peut appeler ça une routine? Enfin, oui, par la répétition, mais tu vois, si demain, ça me saoule et que j'ai pas envie de faire ça, je fais autre chose. Je sais que là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu Animal Crossing et quand j'ai le temps le matin, j'essaye de passer 20-30 minutes dessus aussi avant de travailler si je me lève pas trop tard. Enfin, tu vois, ça fait aussi partie de ma petite routine, mais ouais, je me remettais encore plus de pression à me créer des routines en me disant je me lève et il faut que je fasse ça. Donc maintenant, ma routine, elle se crée d'elle-même par rapport à ce que j'ai envie à l'instant T.
Ok. Je vais te poser une question sur tes petits plaisirs. Bon, même si, à mon avis, tu as déjà distillé quelques petites réponses dans l'interview. Mais qu'est-ce que tu adores faire pour te détendre ou lorsque tu sens que tu as un coup de stress ou un défaut de motivation? C'est quoi tes petits plaisirs, coupables ou pas? Ceci dit, il n'y a pas de plaisir coupable ici.
Manger. Okay. Des fois, franchement, c'est la meilleure solution. Quand je suis face à un mur, que j'arrive pas à avancer, genre aller me préparer un petit goûter ou un petit truc qui me fait envie, une petite, même une grande tasse de thé, ça peut être salvateur. Après, dans mes petits plaisirs en ce moment, avec les beaux jours, c'est de me caler sur mon balcon et de lire un livre ou d'écrire un peu dans un carnet. On a un peu aménagé avec des petits coussins sur des palettes et tout. Et en fait, je trouve hyper cosy maintenant. Donc, j'aime trop aller m'installer sur mon balcon. Et après, sinon, dans les petits plaisirs, même les grands plaisirs, c'est aussi beaucoup jouer aux jeux vidéo. Je passe beaucoup de temps, surtout en ce moment, dessus parce que ça me permet vraiment de m'évader et de penser à autre chose. Et ouais, c'est vraiment le truc que j'aime faire. En ce moment, je suis assez à fond là-dessus.
Très bien. S'il y avait un conseil que tu aimerais donner à la toi qui débute dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ce serait ?
Je pense que le conseil que je voudrais me donner, c'est de pas me poser trop de questions. Parce que je suis quelqu'un qui surréfléchit un peu tout. Et je pense qu'à certains moments, j'aurais pu avancer plus vite si je m'étais posé moins de questions. Et ça va avec finalement le fait de se comparer, parce qu'en se comparant à d'autres personnes, Je me posais des questions sur est-ce que moi je suis la bonne direction, etc. Donc, je pense que ce serait ouais, vraiment le conseil principal. Parce qu'au final, si je devais refaire mon parcours, je referais les mêmes choix parce que la manière dont il a été construit, même s'il y a eu plein de choses différentes, ça m'a apporté autant en compétences qu'en confiance en moi et en ouverture d'esprit aussi sur plein de sujets. Donc, ce serait, ouais, pose-toi pas trop de questions et vas-y, fonce.
Ok, ouais, donc peut-être si on essaie de reformuler ça de manière positive, ce serait ben passe à l'action, quoi, en fait.
Ouais, et suis ton instinct.
Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à mettre pas mal en sourdine son instinct et en rétrospective, on se rend compte que si on l'avait suivi, généralement, il ne se trompait pas beaucoup sur les situations et les personnes.
Ouais, mais sur le moment, on a tendance à pas trop faire confiance. Donc, ouais.
Complètement. Ok, super. Alors, je voulais te poser la question de s'il y a une question à laquelle tu aimerais que nos auditrices puissent réfléchir aujourd'hui, quelle serait-elle? Je ne sais pas si tu as quelque chose à proposer, mais c'est vrai que pendant notre discussion, j'ai beaucoup aimé ton image comme ça de moi du futur et du fait de lui donner beaucoup trop de responsabilités. Donc, peut-être que ça pourrait être justement de penser quand on a des to-do list ou des choses à faire plus tard, être peut-être plus bienveillant avec son moi du futur. Alors, je ne sais pas si tu avais autre chose en tête ou si tu veux rajouter quelque chose. Parce que du coup, je fais des
Non,
questions-réponses là.
je trouve que c'est une bonne question à se poser. Et après, voilà, il faut que cette espèce de dissociation aussi, ça puisse parler aux personnes qui nous écoutent. Mais c'est vrai que enfin, moi, personnellement, là, c'est en train de m'aider de réfléchir comme ça parce que je me dis que c'est une bonne question de se dire. Finalement, c'est un peu comme si on déléguait à quelqu'un, tu vois. Dans le monde du freelancing, on parle beaucoup de apprendre à déléguer, quand on peut déléguer certaines missions à d'autres personnes, etc.
Ouais.
Bah, finalement, quand on planifie ses semaines, ses mois, ses objectifs, bah, on délègue leur exécution à notre moi du futur. Et réfléchir en termes de bah, si c'était une autre personne. Qui travaillait avec moi et à qui je déléguais tout ça, est-ce que ça serait vraiment réaliste? Est-ce que, à cause de ce que je lui délègue et de la charge que je lui délègue, est-ce qu'elle se sentirait pas mal? Est-ce qu'elle se sentirait pas stressée? Est-ce qu'elle se sentirait pas assez capable justement parce qu'il y aurait trop de choses à faire par rapport à son énergie ou par rapport au temps dont elle dispose? Et c'est un peu finalement le conseil de pense à comment tu parlerais à ta meilleure amie quand tu te parles à toi-même, en
Exactement.
revisiter version business un peu. Mais donc voilà, il y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais je trouve que c'est intéressant comme approche parce que bah, ça permet d'être plus réaliste dans les objectifs qu'on se fixe parce qu'on se considère vraiment comme une personne qui travaille avec nous en fait et avec qui il faut être bienveillant et qui doit mettre en place des process aussi. Donc peut-être que si on délègue, enfin on repousse des choses à plus tard, bah, peut-être que la nous du présent peut mettre en place des process qui faciliteront l'exécution de ces tâches pour la nous du futur.
Carrément. C'est vrai que là, du coup, quand on parlait, je pensais totalement à ce conseil-là de parle-toi comme tu parlerais à ta meilleure amie.
Oui, c'est ça au final.
Alors, on arrive à la fin de l'interview, donc je vais te poser une dernière question, Mélanie. S'il y avait deux outils ou ressources que tu adores et que tu peux conseiller aux entrepreneuses, lesquelles seraient-ce? Oh, je ne sais pas si la question est. Quels seraient ces outils ou ces ressources?
C'est dur de choisir. Ça peut être des comptes aussi sur les réseaux ou
Ouais, tout à
plutôt.
fait.
Ok, ça marche. Mais il y a un compte sur Instagram que j'aimerais bien recommander. Je te parlais de coaching en gestion du temps tout à l'heure et je l'ai fait avec Lisa du compte lisa.timelab. J'imagine que tu mettras les liens aussi
Oui.
dans la description. Et en fait, Du coup, je la considère comme ressource dans le sens où c'est une personne qui va vraiment à l'encontre des injonctions autour de l'organisation et de la gestion du temps en entreprise. Et je pense que c'est... Enfin voilà, si c'est des sujets qui te parlent, ou si c'est des sujets qui parlent à tes auditrices, ça peut être hyper intéressant d'aller suivre ce qu'elle fait. Elle a des articles, enfin voilà, son compte sur les réseaux, des vidéos aussi, où elle parle de concepts comme la procrastination, ce genre de choses. Et c'est très déculpabilisant, donc je la conseille vraiment.
Ok.
Et après, en autre ressource, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé sur les habitudes. Et sur enfin, comment finalement atteindre ses objectifs en mettant en place des systèmes plutôt qu'en se fixant des gros objectifs. Et c'est le livre Atomic Habits. Je crois, il est traduit en français, mais je n'ai plus le titre en français.
Oui, en fait, je suis en
Donc,
train de le lire.
ah, bah voilà. Bah, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, en tout cas, il faudrait que je le relise parce que j'avais beaucoup aimé. Surtout, l'idée finalement globale dans ce livre, comme je disais, c'est la mise en place de systèmes et comment tu peux te reposer sur tes systèmes pour avancer et finalement être meilleur sur l'objectif que tu cherches à atteindre un petit peu plus chaque jour. Et c'est hyper intéressant. Il y a un peu de côté de routine aussi, donc voilà, après, c'est adapté à son fonctionnement, mais les concepts à l'intérieur sont très intéressants et ça s'applique à tous les domaines, vie pro, vie perso. Donc, je le conseille vraiment. Moi, c'est un peu un livre ressource. J'ai pris beaucoup de notes dessus dans Notion et j'y reviens assez souvent.
D'accord. Ben écoute, super. Ça nous fait déjà deux choses. Un compte Insta à aller suivre tout de suite éventuellement et effectivement un livre à lire. Donc, ouais, je te dis, moi, je suis en train de le lire. Je pense que je ferai une petite fiche de lecture, peut-être un épisode de podcast dédié à ce livre. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est assez
Oh,
intéressant parce qu'en
chouette.
fait, il y a pas mal d'explications de comment est-ce qu'on fonctionne et comment, pourquoi les habitudes fonctionnent ou pas. Et c'est vrai que ça... C'est très
Ouais,
intéressant.
et comment déconstruire les mauvaises habitudes pour en construire des bonnes, comment utiliser les habitudes qu'on a déjà pour créer des nouvelles habitudes avec, enfin, c'est hyper intéressant. Franchement, tout le système, enfin, le fonctionnement de tout ça, c'est hyper utile.
Effectivement. Eh ben, du coup, merci beaucoup, Mélanie, de nous avoir abreuvé de ton expérience, tes connaissances, tes conseils. C'était super intéressant. Je rappelle que là, tu es sur le point de lancer ta formation sur la gestion de communauté, enfin, surtout l'utilisation de Discord, la création de communauté sur Discord, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc, je vous mets tous les liens dans la description si vous êtes intéressé pour vous préinscrire ou vous inscrire. Vous pouvez suivre les liens. Et voilà, je te remercie encore et j'espère que cette interview vous aura apporté pas mal de grains à moudre et de jus de cerveau.
Bah, merci à toi en tout cas pour l'invitation. C'était très chouette ce format un peu discussion. En tout cas, bah pareil, j'espère que mon parcours et mon expérience auront pu aider les personnes qui nous écoutent. Et puis, vraiment, n'hésitez pas à venir papoter avec moi sur Instagram si vous avez envie de parler organisation, etc. Je suis toujours ouverte à la discussion et j'aime bien parler de ces sujets.
Eh ben, c'est génial. Eh ben, écoutez, dans ce cas, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bonne fin de journée. À bientôt.
Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine !